Nils Ackermann, Les enfants de Tchernobyl. À 34 ans, Nils Ackermann est un photographe documentaire qui a déjà reçu plusieurs Swiss Press Photo et le prix Rémy Hochelick de la ville de Perpignan en 2016. Photographe pour la presse internationale depuis 2007, il est aujourd'hui membre fondateur de l'agence Lundi 13. C'est un jeune photographe reconnu, suivi et attendu. Durant 4 ans, entre 2012 et 2015, il s'est rendu régulièrement à 40 km de Tchernobyl, dans la ville de Slavoutych, née de la catastrophe de 1986. De ses allées et retours, il a produit un livre. Au cœur de ce travail, la transformation de cette société, de cette jeunesse née à Slavoutych, où résident 25 000 habitants. Ici, plus de gens meurent de la drogue et de l'alcool que de la radioactivité, dit l'un d'eux. Mais la fatalité n'est pas la reine. Le symbole de la ville de Slavoutych, c'est un ange blanc. Et c'est une photo que Nils Ackermann prend en 2012.
Pour moi, il y a quelque chose d'assez paradoxal dans cette image, parce que c'est un ange, c'est beau, c'est doux, c'est calme. Puis là, il est échoué dans un garage poussiéreux sur des pneus. Il y a quelque chose d'assez lamentable. Et puis j'aimais ce contraste entre un beau projet et une fin un peu minable. Et c'est quelque chose qui est assez... Enfin, que je trouve assez souvent en Ukraine. On part avec de grandes ambitions et puis on finit un peu par un fiasco. C'était une espèce de question aussi. Est-ce que la ville a ce même destin ? C'est une ville qui n'existe que pour Tchernobyl, mais Tchernobyl, maintenant, c'est fini. Il y a l'Arche qui est en train d'être achevé, le projet Novarka. Mais qu'est-ce qui vient après ? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et donc voilà, on a une magnifique ville, mais quel est son futur ?
Comment est-elle née, cette ville ?
Cette ville, elle est née après l'accident de Tchernobyl. Il y a eu l'évacuation d'un périmètre de 30 km autour de la centrale, dont la ville de Pripyat, qui logeait tous les travailleurs, les ingénieurs de la centrale. Et cette centrale, le réacteur 4 a explosé, mais les trois premiers étaient encore opérationnels. Et l'URSS, aussi surprenant que ça puisse paraître, a décidé de continuer à produire de l'électricité là-bas. Donc il fallait garder des ouvriers, des ingénieurs près du réacteur, mais pas dans la zone polluée. Donc ils ont cherché un endroit où il y avait la possibilité matérielle de construire une ville. Et puis c'est l'endroit où est né Slavoutych qui a été choisi. Il y avait la fin d'une ligne de chemin de fer, donc depuis là ils pouvaient acheminer les matériaux de construction. On est à 50 km à l'est de Tchernobyl, et en un an et demi ils ont fait sortir du sol une ville de 25 000 habitants qui a été dessinée par les meilleurs urbanistes de l'URSS. C'est une ville qui inspire encore d'ailleurs certains urbanistes, parce que c'est vrai qu'elle est très bien conçue. Il y a un centre avec les écoles, les supermarchés, la mairie, etc. Et autour de ça, les habitations, donc on peut s'y déplacer sans voiture. Tout le monde habite au centre-ville, en quelque sorte.
Votre travail particulièrement, ça a été plusieurs allers-retours pendant 3-4 ans pour aller voir vivre ces gens, et entre autres, une génération qui finalement est née là-bas.
Oui, là, les gens qu'on voit sur ces photos, c'est en gros les natifs de Slavoutych, les premiers natifs, puisque leurs parents ne sont pas nés. La ville a ouvert ses portes en 88. C'est pour ça que je les appelle les enfants de Tchernobyl. Ça fait un peu jaser dans la région, parce que eux n'ont pas... Ce qu'ils appellent les enfants de Tchernobyl en Ukraine, c'est plutôt des victimes de radiation, des enfants qui étaient à Pripyat, qui ont été contaminés. Eux sont juste nés à Slavoutych, une ville propre, pas radioactive. Et ils grandissent, mais pour moi c'est des enfants de Tchernobyl parce qu'ils sont nés d'une ville qui est née de la catastrophe. Donc on voit sur cette image Yulia qui embrasse Zhenya, elle lui saute dessus, elle l'enlace avec ses jambes, enfin elle touche plus sol. Ils étaient en train de fêter leur mariage. Le mariage s'était fait en deux étapes, une partie officielle avec la famille à la mairie, et deux jours plus tard les amis étaient invités dans la datcha de Zhenya, donc dans la campagne, la petite maison de campagne. Et puis là, c'était vraiment une fête arrosée d'alcool comme pas possible. J'ai d'ailleurs plus aucun souvenir passé le coucher du soleil. Mais là, on venait d'arriver dans la datcha. Pour y arriver, il y avait une espèce de rallye. Et à chaque étape, il y avait des bouteilles de rhum coca. Donc on est arrivé déjà complètement cuit. Et il y avait des petits jeux, les trucs typiques qu'il y a pendant un mariage. Et tout d'un coup, je me retourne et je vois les invités qui avaient sorti un ventilateur. Je ne sais pas d'où. Et des petits kits pour faire des bulles là, qu'on donne aux enfants. Et puis je me retourne de 90 degrés, 90 degrés, et je vois Yulia et Zhenya qui s'embrassent. Et les bulles qui commencent à voler devant eux. Et moi, j'avais même pas besoin de bouger de là où j'étais. Et il y avait cette scène assez magique parce qu'on a ce baiser, on a cette vieille datcha derrière, ils étaient parfaitement centrés, tout était très symétrique. Et ces bulles qui flottent, qui amènent des espèces de couleurs de l'arc-en-ciel devant. Et moi, ça me rappelait une image qui m'a toujours fait rêver, une photo de Jonas Bendiksen dans son travail Satellite. Sur la couverture du livre, on a cette roquette qui atterrit dans un champ verdoyant. Et puis des jeunes qui grimpent dessus. Il y a des espèces de lucioles blanches qui volent et qui font un peu comme de la neige. Et je trouvais qu'il y a quelque chose de surréaliste dans cette image. Et je rêvais de pouvoir un jour faire une photo de ce type. Et là, dans cette image, sur laquelle je n'avais absolument aucun contrôle, c'est ce que j'aime dans le reportage, c'est qu'on laisse les choses venir devant nous. Et ben, j'avais cette magie de ces bulles qui disaient aussi tout cet amour et le côté magique de l'amour.
On sent une certaine... bienveillance, une certaine empathie dans votre reportage.
Oui, c'est un reportage qui est fait en lien très proche. C'est 16 voyages. Et au début, on est un peu superficiel, mais c'est vrai que moi, je ne veux pas voir tout. Je veux voir peu, mais vraiment en profondeur. Donc, je reviens au même endroit. Je ne veux pas voir toute la région, tout l'oblast, tout le pays. J'ai envie de voir certaines villes, certaines personnes qui m'intéressent. Mais de tout savoir sur eux. Et du coup, il se crée des liens proches. Yulia et Genia m'ont vraiment laissé entrer dans leur vie. Je vivais chez eux, passé un certain temps. Et du coup, je les connais très bien. Yulia, je la connaissais mieux que son mari, parce que j'étais arrivé dans sa vie avec leur reportage avant lui. Et j'y suis resté plus longtemps, puisque maintenant, ils sont déjà divorcés. Et c'est devenu presque comme une espèce de sœur, donc je la connais très bien, elle me connaît aussi très bien. Il se crée des liens, et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans une approche où on se consacre vraiment sur le long terme, c'est qu'on donne quasiment autant qu'on reçoit. On ne peut pas recevoir l'intimité de ces gens sans nous aussi se révéler. Donc oui, il faut beaucoup d'empathie, mais en même temps, il faut garder la distance, parce que ça reste un travail journalistique. Mon but, c'était de documenter de manière objective et factuelle la jeunesse, la vie dans cette ville. Et les photos qu'on voit là, il y en a certaines qui ne plaisent pas à ces jeunes, mais ils avaient toujours accès, j'étais toujours transparent. Donc s'ils voulaient voir les images que je produisais, ils pouvaient venir chez moi, ils pouvaient regarder sur mon ordi, des fois je leur envoyais aussi par Internet. Ils aimaient ces photos, certaines ils les aimaient pas, mais ils comprenaient pourquoi elles étaient faites et pourquoi j'en avais besoin. Et jamais ils m'ont dit « efface cette photo, n'utilise pas cette photo ». Ils m'ont vraiment laissé la liberté parce qu'ils ont compris justement ma tâche de journaliste, qui était quelque chose qui allait au-delà de leur propre ego. Le but, c'était vraiment de retranscrire ce que c'est que la jeunesse en Ukraine, et en particulier dans cette ville de Slavoutych, qui est la ville la plus jeune d'Ukraine. En septembre 2015, j'étais revenu avec Gaëtan Vanet, qui a écrit le texte pour le livre, et je lui montrais la ville. Je lui ai vraiment rien dit avant qu'il vienne. Je savais que ce serait lui qui aurait le style que je voulais, qui avait le côté un peu acerbe comme ça, qui m'amusait, mais je voulais qu'il se fasse sa propre opinion de la ville. Et puis tout d'un coup, on marche, c'est une ville entourée d'arbres, donc on y tourne très vite en rond. On marche sur le boulevard principal, et puis d'un coup, on entend une voix qui dit « Hello ». Puis je me retourne, il n'y avait vraiment personne autour de nous. Puis je continue à regarder, je voyais personne. Et puis de nouveau, hello. Je n'arrivais pas à voir qui nous saluait. Et puis je me rapproche un peu et tout d'un coup, je vois que sous l'arbre, dans l'arbre, il y a un enfant qui s'était caché. Et puis il était là et je lui dis, mais je lui demande en russe, mais qu'est-ce que tu fais là? Puis il me dit, je suis assis. Je trouvais sa réponse complètement absurde et un peu surréaliste. Et bon, j'ai fait une photo de lui assis dans son arbre. Et c'est quelque chose que j'aime en Ukraine. Il y a toujours des situations un peu paradoxales, un peu bizarres comme ça qui se passent, un peu magiques.
C'est justement ça qu'on voit aussi dans votre reportage, c'est que ces enfants, ces trentenaires qui ont connu les 30 ans de l'après Tchernobyl et qui sont nés un peu moins de 30 ans... Est-ce qu'il n'y a pas une forme de... On peut imaginer une forme de jeunesse heureuse et puis un jeune adulte qui va vers une forme de désabusement, une forme de tristesse aussi qui transparaît.
Alors, il y a de toute façon un regard slave sur le futur. C'est quelque chose qui a été vraiment crucial pour moi d'un point de vue philosophique. En tant que Suisse, on est obsédé par le futur, par tous les obstacles qui vont venir dans notre vie. On a tendance à penser, avant de faire n'importe quel projet, à tout ce qui peut ne pas marcher. Et c'est dangereux parce qu'en faisant ça, ben, des fois, on ne fait plus de projets. Et eux, l'histoire a tellement malmené les Slaves en général, pas que les Ukrainiens, l'histoire les a tellement malmenés qu'ils se disent, enfin, s'ils pensent au futur, ça peut faire peur. Donc, ils ont complètement éludé ça de leur mode de pensée et ils vivent le présent beaucoup plus intensément que nous. Et moi, j'ai beaucoup appris de ça et j'essaye d'en tirer aussi des leçons pour moi aussi vivre le présent plus que de paniquer sur ce qui peut arriver dans le futur et garder cette optique que vivons ce qu'on veut maintenant et si quelque chose va mal, dans l'hypothèse où ça va mal, ce qui n'est pas garanti, on trouvera bien une solution. Et donc il y a une espèce de fatalisme comme ça, mais qui est pas teinté de négativisme. C'est vraiment... ils vivent le présent, ils ont une espèce de joie du moment que je trouve assez rare et différente de ce qu'on peut voir en Europe. Alors, quand j'ai décidé de travailler à Slavutich, dès le début, je m'étais dit c'est un projet que je fais pour moi. Je n'ai pas été le pitcher à aucun magazine. Je ne voulais pas qu'ils imposent les biais qu'on a d'habitude quand on fait un reportage. Je l'ai remarqué durant le premier voyage. Je me disais, j'ai été faire une photo du panneau de la ville, j'ai été faire une photo de la mairie. J'avais vraiment les espèces de raccourcis typiques qu'on fait quand on n'a qu'une après-midi ou deux jours pour faire un reportage quelque part. Et ça m'a énervé, en fait. Je me suis dit, mince, je me suis fait complètement laver le cerveau par les commandes à court terme. Et puis, j'arrive plus à avoir la liberté. Et du coup, j'ai pris la décision de vraiment garder ça pour moi. C'était mon projet à moi. Et j'allais décider de son output. Et vite, quand je me suis dit, OK, c'est un travail que je vais faire sur la jeunesse, je veux y consacrer du temps. Je m'étais donné 2 ans à l'époque. Ça allait être soit pour moi qu'il fallait pouvoir imposer un type de lecture au spectateur, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire avec un magazine parce qu'on a peut-être 10-16 photos qui vont être choisies. La rédaction va choisir l'ordre, va choisir le papier, va choisir la mise en page, va choisir la typographie qui va aller autour. Et on perd totalement contrôle, à moins dans certains cas rares où on est un peu consulté, mais c'est rare. Et puis ça reste très limité au niveau des images et puis de ce qu'on peut faire. Le web n'était pas non plus la solution qui m'intéressait parce que je sais quel temps d'attention on obtient des gens sur des web documentaires et j'aurais pas eu le temps en une minute de leur montrer tout ce que j'avais envie de montrer. Alors le livre s'est un peu imposé comme ça parce que le livre, il y a une espèce de sacrifice de la part du lecteur. Le premier, il est financier, il investit de l'argent dans un objet, donc il en veut pour son argent. Il va parcourir chaque page pour aller tirer le retour sur investissement. Et du coup, je peux lui imposer, page après page, le récit que j'ai envie de lui montrer. C'est un récit, quand on ouvre le livre, qui commence dès... on tourne la couverture et on est directement dans les images. Il n'y a pas de tête, pas de blanc, pas de titre. On est directement dans les photos qui sont en pleine page, parce que je voulais vraiment aucune obstruction, aucune pollution visuelle en fait de l'image. Enfin, la plupart des images sont en pleine double page. Le papier aussi était une des choses que je voulais définir pour cette expérience. C'est un papier non couché qui a un toucher assez agréable, qui sent en plus divinement bon. Mais l'idée, c'était aussi qu'il y avait une espèce de timidité. Une texture un peu rugueuse comme ça qui moi me rappelle un peu l'adolescence, mi-doux, mi-rugueux, et les noirs sont un peu plus discrets, mais le photolithographe a fait un boulot magnifique, mais on garde un peu cette timidité justement du jeune qui se cherche quand même un peu, qui essaye de déterminer sans trop d'exubérance qui il est. Donc tout était défini. Qui a écrit les textes aussi, les textes apparaissent à la fin, donc on a tout le récit en images avec quelques petites citations par-ci par-là pour guider le lecteur, mais en lui donnant quelques clés, mais pas trop. Et à la fin, on a le texte qui commence avec une préface par André Courcoff, puis le texte de Gaëtan Vanet, et ça a vraiment été conçu comme l'autre moitié du livre. On ne peut pas vraiment comprendre ce travail uniquement par les photos. La lecture de ces deux textes aide à comprendre bien précisément ce qu'on voit dans les images. Donc en fait, on peut s'en faire 3 lectures, une première avec les images, une deuxième avec le texte et une troisième avec les images une fois qu'on a compris le texte.
Comment est-ce que ça a commencé? Comment êtes-vous devenu photojournaliste?
Je suis venu à la photo très progressivement. Je voulais un appareil photo quand j'étais gamin, je voulais utiliser celui de mon père. Il avait un chouette EOS qu'il a acheté quand je suis né, mais il refusait de me le prêter. Je pense qu'il avait peur que je le casse. Et quand j'avais autour de 11-12 ans, je commençais à m'intéresser au graphisme. Et j'ai commencé à économiser, à faire plein de petits boulots pour m'acheter mon premier appareil, qui était un appareil numérique déjà à l'époque. Et j'ai économisé, je crois, 2 ans pour m'acheter mon premier appareil, que j'utilisais pour produire du matériel pour des compositions graphiques. Et mes inspirations à l'époque, c'était plus la peinture que la photo de journalisme. C'était des images qui n'avaient pas une portée documentaire, c'était une portée vraiment esthétique. Tout a changé quand il y a eu en 2003, il y a eu le G8 d'Evian qui s'est passé donc dans la ville voisine de Genève, ma ville natale. Et à l'époque, j'avais, je sais plus, 15 ans, je crois. Et je voulais voir si ces manchettes de journaux qui annonçaient des hordes barbares qui allaient défiler sur nos rues et tout défoncer, je voulais voir si ça allait être vraiment comme ça, à quoi ça ressemble et tout ça. Donc je suis descendu avec mon petit appareil dans les rues, photographier les vitrines recouvertes de bois, puis cassées, etc. Et ça m'a fasciné. J'ai continué ensuite à documenter la vie politique et sociale de ma ville. Et puis en 2007, je suis entré dans l'agence Réseau, agence suisse très connue, qui m'a permis de fournir ces images que je faisais avant pour moi à la presse. Et ça a continué. J'ai pu développer des nouvelles histoires. Et puis l'année passée, avec quelques collègues, on a fondé notre nouvelle agence Lundi 13.
Être basé à Genève et Kiev, ça veut dire quoi?
Ça fait maintenant 1 an et demi que je vis à Kiev en grande partie. Mais j'ai voulu garder un pied en Suisse parce que j'ai des clients que j'aime beaucoup. Je fais des mandats que j'aime énormément là-bas. Et je me suis rendu compte progressivement que ça me permettait même de gagner une liberté essentielle en Ukraine. Et en fait, mon mode de travail, c'est que tous les mois, je viens une semaine, généralement du 20 au 26. Donc mes clients peuvent s'aligner sur ce calendrier en sachant que n'importe quel mois, à telle période, je suis généralement là. Et cette semaine de travail me permet de tourner le reste du mois en Ukraine sans avoir à chercher des commandes. Et elle me permet de travailler sur les prochains projets que j'ai en cours sans savoir s'ils vont être rentables. En fait, mes factures sont payées grâce à ma semaine en Suisse. L'argent qui est issu des différents prix que j'ai eus, c'est des ressources exceptionnelles que je garde pour des projets eux aussi exceptionnels, mais je ne les fais pas rentrer dans ma comptabilité. Mais du coup, cet ancrage entre la Suisse et l'Ukraine me permet le luxe incroyable de pouvoir travailler librement pendant 3 semaines par mois sans souci.
Vous avez eu différents prix, vous êtes un jeune photographe très suivi. Est-ce que ça ne vous met pas une pression?
Oui, ça met une pression et c'est vrai que c'est arrivé très très vite. C'est quelque chose qui m'a un peu fait peur parce que ça a commencé en 2013 avec le prix Globetrotter, un prix en Suisse allemande, qui m'a vraiment permis de finir ce travail et d'en faire le livre qu'on a actuellement. Et puis l'année passée, ça a été vraiment de la folie. Il y a eu le prix British American Tobacco, il y a eu le prix Focal, il y a eu le Swiss Photo Award, puis le Swiss Press de photographe de Suisse de l'année. Et ça, c'est incroyable parce que du coup, ça m'a donné une crédibilité, une légitimité. Bien sûr, il y a ensuite eu cette année, en ce moment, le prix Rémy Hochelig à Perpignan. Mais tout ça, ça me donne une visibilité que je n'avais pas avant. Avant, j'étais le contributeur pour les journaux qu'on appelle, parce que voilà, la plupart savaient quand même quel type d'image j'aimais faire. Mais là, maintenant, ils découvrent mon travail. Et la plupart des rédacteurs photos ne connaissaient pas ce projet. Et ils découvrent mon travail. Certains découvrent que je suis plus en Ukraine qu'à Genève. Et c'est une fabuleuse opportunité, c'est une fabuleuse vitrine. Et maintenant, j'essaye de capitaliser sur ça le plus intelligemment possible, à savoir que j'ai déjà le prochain travail qui est en train d'être fini. C'est un travail sur la décommunisation. Et je l'ai volontairement fait très différent de celui-là, parce que j'ai pas envie de passer toute ma vie à faire les mêmes images. C'est un travail qui est beaucoup plus posé, où il n'y a pas de vie. J'ai été chercher les statues déboulonnées à travers l'Ukraine. Là, actuellement, j'en ai déjà 40. Chercher ces statues déboulonnées pour voir ce qu'elles sont devenues après être tombées de leur piédestal. Et c'est un travail qui se destine à un public un peu différent, qui raconte une histoire très différente, mais qui donne aussi un angle décalé sur la vie de l'Ukraine, sur l'Est. Voilà, ça met une pression, ces prix, mais c'est aussi une super opportunité qu'il faut saisir intelligemment. Donc là, je profite de ces prix maintenant pour donner de la visibilité au prochain travail, en espérant que ça me permette de continuer et puis d'enchaîner plusieurs prochains projets. J'ai des tiroirs pleins de projets. Et toujours, j'essaye de toujours garder mes travaux auprès de mes clients en Suisse, parce que en ce moment, il y a du succès, mais ça peut ne pas durer. Et j'essaye de rester clair. C'est pour ça que, voilà, ce qui me fait tourner, ce qui me fait manger à midi et le soir, c'est le travail que je fais durant ma semaine en Suisse, qui n'est pas lié à ces projets.
Quelle est votre limite de photographe ? Jusqu'où vous pouvez aller à photographier quelque chose ?
Je suis quelqu'un d'assez pudique. Si on retourne les images du livre, il y avait par exemple la photo de Nadia nue sur son lit. C'est la seule photo posée du travail. Et c'était... Nadia était la copine de Kirill, un des meilleurs amis de Yulia. Ils avaient prévu de se marier et Kirill est un type pas très très stable. Il change d'avis régulièrement et il n'a pas une grande confiance en lui. Et vraiment très peu de temps avant le mariage, j'avais déjà acheté mon billet d'avion, il a tout annulé. Et lui est passé assez vite à autre chose, mais elle chantait qu'il avait encore beaucoup de sentiments. Et puis j'avais vu sa chambre, je voyais sa mélancolie dans son visage et je la voyais posée nue sur son lit. Il y avait quelque chose qui m'inspirait énormément. Je lui avais proposé ça, elle ne parlait pas un mot d'anglais. J'avais essayé avec mon russe, j'avais fait une sélection d'images tirées de la peinture, tirées de différents reportages que j'aimais. Pour lui dire, voilà, c'est ce genre d'image auquel je pense. Elle a dit, ouais, c'est super. Mais en fait, on était dans sa chambre avec la porte ouverte, avec derrière le salon et sa mère qui regardait la télé et qui nous amenait des biscuits. Et elle était super gênée de se dénuder. Et puis moi, j'étais rouge comme une tomate. Et du coup, on a une image plus prude parce qu'en fait, elle est emballée dans son duvet. On sent qu'elle est nue, mais on voit finalement très peu. Mais on voit juste ce dont j'ai besoin parce qu'on a un regard qui raconte beaucoup. On a une espèce de composition assez travaillée. Et c'est une image qui est plus proche de moi que si on avait tous les attributs du corps féminin exposés à l'image. Donc c'est vrai que le rapport à la nudité, c'est quelque chose que j'inclus peu dans mon travail, qui est suggéré dans certaines des images, mais que j'évite de trop montrer de manière frontale. Ça reste conforme à ma timidité.
En pensant à l'ensemble des reportages que vous avez réalisés et ceux que vous allez encore faire, qu'est-ce que vous voulez montrer ?
J'aime chercher la différence. Un ami avait dit une fois que je m'intéresse à des choses qui n'intéressent personne. Et c'est quelque chose qui m'amuse et que j'aime bien. Là, j'ai eu une chance inouïe sur Slavutich, c'est que je n'étais pas allé à Slavutich pour Tchernobyl. Tchernobyl, j'avais déjà vu suffisamment d'images et ça ne m'intéressait pas plus que ça. J'étais allé à Slavutich parce que je voulais voir la ville, je voulais voir sa jeunesse. Mais Tchernobyl, je m'en foutais. Et ça m'a donné une chance inouïe parce que du coup, j'ai pu m'ouvrir à d'autres sortes d'histoires. Si j'étais venu pour documenter Tchernobyl, j'aurais été chercher les raccourcis qu'on a d'habitude. Cancer, travailleur de Tchernobyl... la ville vide de Pripyat, et j'aurais peut-être raconté la même histoire que tout le monde. Mais j'ai eu une chance inouïe, c'est que je m'intéressais à autre chose. Et c'est vrai que du coup, j'essaie de toujours m'intéresser à autre chose. Et avec ça, mon but, c'est de raconter une histoire. Je veux pas conclure pour le spectateur ou pour le lecteur. J'ai envie de lui donner des éléments, une information. C'est ça le rôle du journaliste, c'est d'amener l'information telle qu'elle est, d'amener les complexités de l'information, dire voilà, cette personne, elle est un peu gentille des fois, un peu méchante pour ça, mais pas de dire donc j'en conclus qu'elle est méchante ou qu'elle est gentille, de montrer la complexité du monde, parce que le monde n'est pas noir et blanc, il est très gris, et enfin il est multicolore plutôt, mais entre le noir et le blanc, il est dans toute cette infinité de possibilités. Et c'est ça que j'ai envie de montrer. C'est ce qu'on a déjà avec Slavutich en racontant que voilà, il y a Tchernobyl, c'est pas que ces histoires de mort et de dévastation. Il y a aussi une vie qui reprend, qu'il faut pas voir l'Ukraine que dans des termes négatifs. C'est quelque chose que j'essaie de raconter avec le prochain travail, justement sur la décommunisation, en disant il n'y a pas une décommunisation possible. Il y a une infinité de rapports à ce passé et c'est complexe. Et l'Ukraine est divisée sur ça et de montrer ces divisions au travers de toutes les variations des rapports que ces gens ont à leur passé soviétique. C'est pour moi ce qui est le plus intéressant dans le journalisme, de raconter un monde complexe.
Est-ce que vous pensez qu'une photo peut changer quelque chose ? Peut en tout cas changer les choses ?
Justement, comme je n'essaye pas de conclure pour les gens, personnellement, je n'ai pas envie que mes photos aient un rôle moralisateur. Et j'aime pas trop que les photos aient un rôle moralisateur parce qu'on élude... En simplifiant qui est gentil, qui est méchant, on élude une bonne partie de l'information qui est souvent nécessaire. Et c'est très très dur par une photo. Pour moi, c'est plus compliqué que peut-être par un sujet en lui-même de raconter une situation scandaleuse ou problématique. C'est important de le faire. Je pense que certaines images peuvent jouer un rôle. J'évoquais justement, pour répondre à cette question qui me déstabilisait, un reportage qui avait été fait, je crois que c'était en Thaïlande, sur le tourisme sexuel, et qui avait abouti à des lois. Pour arriver à choquer l'opinion publique, il faut amener quelque chose de nouveau. Donc il ne faut pas enfoncer les portes ouvertes en racontant tout le temps les mêmes histoires. Il faut raconter quelque chose de nouveau, il faut le raconter au bon public, et puis il faut que ce soit un public qui soit capable d'influencer les décideurs. Ça fait beaucoup de chaînes, sans compter que justement les lieux communs qu'on a souvent dans le journalisme amènent à la lassitude. On voit beaucoup ces images des migrants en ce moment. Comment raconter les migrations sans lasser, sans que l'œil des spectateurs dise « Ok, encore des migrants qui passent sur une barrière, etc. » On devient indifférent à ces images quand on les voit trop. Et comment raconter des problématiques de ce type sans, en contournant la banalité, c'est l'enjeu. C'est pour ça que les photographes, c'est ce qui différencie, je pense, aussi les professionnels des amateurs, c'est qu'ils vont amener cette créativité, cette culture de l'image pour dire voilà, j'ai un angle, j'ai une façon nouvelle de vous raconter cette histoire que peut-être vous connaissez, mais je vais vous la raconter de manière plus complexe et ça va peut-être vous toucher mieux ou plus que ce que vous aviez vu jusqu'à maintenant.
D'après vous, comment est-ce qu'une image devient mondiale ?
C'est un phénomène que je comprends pas. Moi, j'ai pas compris le succès de ce travail. Quand je l'ai fait, je pensais que ça n'intéresserait personne parce que justement, on n'avait aucun de ces lieux communs qu'on voit d'habitude sur Tchernobyl. Et du coup, je le faisais pour moi. Pure satisfaction égoïste, ça aurait pu rester sur mon disque dur sans aller nulle part. J'aurais été tout aussi heureux. Là, en ce moment, il a beaucoup de succès et je ne comprends pas la totalité. Je me dis c'est peut-être par son intimité, ce décalage par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur Tchernobyl. Ça me fait plaisir si c'est le décalage parce que ça veut dire qu'on peut raconter des histoires différentes. Mais j'ai pas une explication pour dire comment une image devient mondiale. Sinon, si j'avais la solution, ce serait fabuleux.
Au-delà de votre devoir, on en a parlé, d'informer, est-ce que, selon les situations et autres, bien que vous soyez journaliste, est-ce que vous avez des fois l'envie d'intervenir ou d'agir ?
Bon, je traite des sujets qui sont généralement décalés d'une urgence politique. J'essaie d'éviter justement la hard news immédiat parce que je suis un petit indépendant, enfin au sein d'une agence, mais on est petit et on peut pas régater contre les grosses agences filières qui diffusent vraiment l'info rapide et brute telle qu'elle se passe tout de suite. Nous, on doit raconter des histoires de plus long terme, donc intervenir, agir est plus difficile. Et il y a un devoir, je l'avais notamment dans ce projet là un devoir de ne pas trop toucher les choses parce que notre simple présence peut modifier le cours des événements. J'avais régulièrement demandé à Yulia s'il y a des choses qu'elle a fait durant ce reportage uniquement à cause de ma présence. C'était quelque chose qui me hantait un peu. J'avais pas envie qu'elle ait fait des choses dans sa vie pour que je puisse les photographier. Et je me demandais par exemple si elle s'est mariée très vite, je me demandais est-ce que c'était à cause de ma présence pour que je puisse photographier quelque chose d'intéressant. Et puis elle m'a dit non, c'était pas du tout toi. Il y a une seule chose que j'ai peut-être fait un peu plus, c'était une fois j'ai fumé un peu de marijuana, peut-être un peu plus que je l'aurais fumé si j'étais toute seule pour que tu aies des images, mais c'était le seul truc qu'elle m'a dit avoir fait à cause de moi. Mais j'essaye vraiment de ne pas intervenir, de rester le plus discret possible, le plus transparent. C'est quelque chose que j'ai pas envie de jouer un rôle. Je peux pas m'empêcher des fois de penser à des choses. Je m'intéresse à la politique dans différents pays, aussi à la politique suisse. Donc j'aime bien des fois discuter de comment nous on fait les choses, comment les choses se font, comment elles pourraient se faire. Mais j'essaye de le garder éloigné du sujet pour pas perturber l'action qui se déroule.
Cet entretien avec Niels Ackermann a été enregistré à Visa pour l'image à Perpignan en 2016 par Jean-Louis Vinet. Montage, mixage, réalisation sont du même Jean-Louis Vinet. Et vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site à l'œil, à l'adresse internet suivante www.a-6l-6oeil.info. Info au singulier. Eh bien, bonne écoute et à bientôt.